Ouellet, en direct.
En direct, avec JC.
Ouais, moi, je l'adore.
Et Patricia.
Continue dans ce sens-là, on va aller loin.
Radio X.
Il se passe beaucoup de choses. Chose certaine, on n'est pas dans une désescalade concernant tout ce qui se passe dans le monde, incluant un paquet de pays. Aujourd'hui, dans notre entretien avec notre chroniqueur Benjamin Tremblay, on va se pencher un peu sur ce qui se passe dans le Golfe Persique, dans le coin de l'Iran, parce que ça brasse énormément. Benjamin Tremblay, 7 jours sur Terre, comment vas-tu?
Ça va très bien. Merci de me recevoir, JC.
C'est toujours un plaisir de te parler, d'avoir ces discussions-là. Et je me garde toujours un moment, moi, pour parler de ces affaires-là, parce que c'est bien, là, la course à la CAQ, mais il se passe des choses dans le monde qui pourraient avoir encore plus d'impact qu'un Bernard Drinville au pouvoir. Jason, de ce qui se passe dans le Golfe Persique, dans cette région-là. D'abord, on nous parle constamment de l'armada américaine qui est en déplacement, qui doivent être sur le bord d'être rendus, impliquant, oui, beaucoup de bateaux de guerre, beaucoup de destroyers et le fameux porte-avions Abraham Lincoln, qui est carrément une ville militaire flottante. On est en train de resserrer l'étau. Et il n'y a pas de discussion, parce que moi, à moins que tu aies des informations contraires, moi, ce que je vois, c'est que l'Iran riposte de façon très ferme. Il y a le chef de la diplomatie qui nous dit qu'on a le doigt sur la gâchette. Le chef de l'armée iranienne promet une riposte sanglante, écrasante. On menace de bloquer le détroit d'Ormuz. Est-ce qu'il y a une possibilité de calmer le jeu à ce stade-là?
C'est une très bonne question. Puis je pense qu'on est encore dans une séquence de négociations malgré tout ce qu'on voit, là, parce que les États-Unis ont un peu raté la fenêtre naturelle puis organique, si on veut, pour frapper l'Iran, qui était vraiment voilà, à peu près 7 à 10 jours, alors qu'on était dans les manifestations un peu plus, ou au moins dans le momentum. Ça aurait été perçu comme une intervention en faveur des manifestants. Là, la réalité, c'est que ça fait un bon bout là, que ces manifestations-là sont terminées. Fait qu'on serait vraiment plus dans une manœuvre qui serait perçue comme hostile ou, pour ne pas dire offensive. Là, on est loin d'être dans une tentative d'appuyer les manifestants. Fait que là, la question, c'est de savoir qu'est-ce que Trump veut obtenir par une frappe. Il nous a parlé beaucoup de la négociation sur la question nucléaire. On s'entend, les Américains ont depuis longtemps une inquiétude que les Iraniens s'équipent d'un programme nucléaire qui aurait, sans dire la capacité de frapper les Américains, là, si vous avez déjà regardé la position de l'Iran sur un globe terrestre, vous savez très bien que ce n'est pas une véritable menace pour les Américains. Ils n'ont pas la capacité, avec des missiles intercontinentaux, d'atteindre le continent américain. Le mieux que peuvent faire les Iraniens, c'est frapper les intérêts des États-Unis, les bases autour dans la région, mais surtout Israël. C'est vraiment ça qui en bête Washington. Puis vous avez énormément de lobbying là, depuis les derniers mois, depuis la guerre de 10 jours, de 12 jours, devrais-je dire, où on a eu les affrontements entre Israël puis l'Iran qui s'est terminé avec des bombardements américains. Et tout ça, c'est terminé un peu sur la glace. On n'avait pas fini ce conflit-là. Ça s'était terminé parce que, d'une part, les lanceurs iraniens, les lanceurs de missiles étaient en train d'être éliminés les uns après les autres. Les Iraniens étaient un peu humiliés d'avoir les avions israéliens qui volaient en toute impunité au-dessus de la capitale. Mais surtout, tu avais aussi Israël là, qui était dans une mauvaise posture parce qu'elle manquait d'intercepteurs, les fameux missiles pour se défendre contre les attaques iraniennes. Fait que, bref, les deux ont un peu tap-out à la fin de ce conflit-là et c'est resté sur la glace. Et depuis ce moment, Israël n'arrête pas de lobbyer les Américains, surtout particulièrement depuis le cessez-le-feu à Gaza, là, où l'armée israélienne a beaucoup plus de bandes passantes, si on veut, allouées à l'Iran. Et on se dit que la fenêtre est bonne. Parce que alors qu'Israël a été en mesure de se rééquiper, de se réapprovisionner, qu'on a des ressources dans la région, l'Iran, elle, est encore sur le cul de cet échange-là là, avec Israël et les États-Unis d'il y a plusieurs semaines maintenant. Donc, il y a une fenêtre exceptionnelle. Je pense que Trump est en train d'essayer de maximiser le levier qu'il y a devant lui et dire à l'Iran, bien, soit vous nous faites un deal... Et un deal qui ne sera certainement pas à l'avantage de l'Iran au sens de la chose nucléaire, mais qui pourrait mettre fin au régime de sanctions, puis qui pourrait certainement baisser la tension considérablement. Maintenant, est-ce que c'est de la frime? Est-ce qu'il veut vraiment ce deal-là? Ou est-ce qu'on est au courant que ça va nulle part? Puis c'est pour ça qu'on a amené l'armada. C'est une très bonne question.
Et est-ce que ça peut se faire avec les autorités en place? T'sais, parce que c'est bien de vouloir un deal, puis OK, on ne fera plus d'armes nucléaires. un deal qui a, by the way, qui a déjà existé. Là, puis malgré ça, bon, on continuait le développement en disant c'est pour notre réseau d'énergie, en sachant très bien qu'ils continuaient quand même la recherche. T'sais, est-ce qu'avec la théocratie en place, avec l'ayatollah Khomeini qui est là puis qui continue à avoir le même discours, parce qu'il n'y a pas le choix, là, je veux dire, c'est le Coran, c'est la charia, est-ce que c'est possible d'y arriver? T'sais, est-ce qu'on peut encore rêver d'une alliance avec des gens aussi bornés, puis je vais dire d'un bord comme de l'autre, là, tu sais.
Bien, sans aller vers une alliance, je pense qu'il y a peut-être moyen d'avoir une détente. Puis ça, là-dessus, tu sais, même les Iraniens sont un peu hypocrites, au sens où le régime religieux, là, quand on pense à l'ayatollah, on pense aussi aux gardes de la Révolution, etc. Ils ont toute leur infrastructure à eux. T'as un peu un État dans l'État, là, avec la version religieuse de l'Iran, si on veut. Mais de l'autre côté, t'as la version plus civile du gouvernement aussi, qui est, le président iranien, pardon, Massoud Pezeshkian, puis tout le reste de la diplomatie. On pense au ministre des Affaires étrangères, Abbas Arachi aussi
en ce moment. Je ne veux pas t'interrompre inutilement, Benjamin, mais l'autorité ultime revient quand même aux religieux. Là. C'est l'ayatollah.
Mais c'est là que je m'en vais. C'est qu'eux, de leur côté, ils font un peu de la gesticulation. Ils n'ont pas eu le choix de toujours être les anti-Américains, anti-Israël, mais la réalité, c'est qu'ils ont laissé ce gouvernement-là extrêmement modéré prendre position là-dessus. T'sais, s'ils n'avaient pas voulu d'un gouvernement modéré puis d'un gouvernement qui ouvertement voulait négocier avec les États-Unis, ils ne l'auraient pas permis. Ils ne seraient jamais rendus à l'étape de l'élection. Puis c'est bon, on parle des élections en Iran, c'est pas tout à fait juste non plus. T'sais, on a la capacité de mettre en marge, si on veut, des partis avec lesquels ou des candidats avec lesquels on n'est pas à l'aise, des politiques qu'on estime trop pro-américaines ou quoi que ce soit. Puis là, ben, quand est arrivé Massoud Pezeshkian, il a fait sa campagne au complet en disant « on va lever les sanctions, on va négocier avec les Américains, on va mettre fin à ce régime de sanctions ». Et le régime de l'ayatollah n'a rien dit. Ils ont juste regardé ça aller, puis ils ont comme donné de la marge de manœuvre. Et là, ben, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des manifestations majeures en Iran, certainement, on s'entend, là, appuyées par les Américains, les Israéliens, etc., mais aussi une nature organique à ça. Là. Les gens sont écœurés du régime de sanctions. Ils veulent sortir de cette camisole de force. Fait que là-dessus, même l'ayatollah, même le régime religieux, ils comprennent quand même là, qu'il faut donner de la marge de manœuvre aux négociations, puis que c'est la seule manière de reprendre l'autorité sur le pays, là.
Et qu'est-ce qui se passe en Iran? Parce que moi, j'ai essayé hier de chercher des vidéos, des images récentes du terrain en Iran, et c'est vraiment... Moi, je suis impressionné là-dessus. Là, pour vrai, je vais leur donner là-dessus, là, sur ce point-là. Je suis impressionné qu'en 2026, un pays réussisse à enlever la Corée du Nord de l'équation, là, mais un pays réussisse à faire un blackout aussi opaque que ça, parce que les dernières images remontent à la période que tu as donnée tantôt, c'est-à-dire entre le 8 et le 12 janvier, alors que vraiment la révolution a éclaté. Et là, ben, tu sais, c'est fou, hein, parce que ça me donne vraiment... Nos réactions nord-américaines, occidentales, sont vraiment en fonction des images qu'on voit. Depuis qu'on ne voit plus d'images de l'Iran, j'entends plus personne parler de ça.
Alors loin que des yeux, loin du cœur.
Ben, quand tu les vois, les manifestants se faire varger dessus, excusez l'expression, mais c'est sûr que ça vient plus nous chercher, puis on est plus dans... Ils ont réussi à bloquer ça, puis là, les gens disaient, mais Starlink va leur donner accès, mais on dit que les gens sont même plus capables de payer le téléphone. C'est très, très difficile.
On a bloqué, mieux que ça, les Iraniens ont carrément brouillé les satellites Starlink avec de l'équipement qui a été fourni par la Russie, notamment. Fait que non, t'as raison, tu touches un point extrêmement intéressant, puis t'as absolument raison, on n'a pas assez examiné ça. Moi, ce qui m'impressionne encore plus, c'est que c'est pas comme la Corée du Nord, justement, c'est pas un régime permanent d'interdiction puis d'accès à l'étranger. C'est quelque chose qu'on a mis en place en 2 secondes, de manière temporaire, exacte, puis que ça fonctionne excessivement bien. On a banni, bon, on s'entend, l'accès à Internet, c'est en train d'être retrouvé sur un intranet. Les Iraniens sont en train de ont le droit de communiquer entre eux, mais l'accès à l'Internet étranger est encore limité. Pour ce qui est des médias, ben c'est là-dessus aussi qu'on a eu un levier, c'est qu'on a banni tout le monde à part Al Jazeera, spécifiquement Al Jazeera en arabe. Fait que tu avais un seul média qui a la capacité de rapporter ce qui se passe sur le terrain. Puis en ce moment, ben, il n'y en a plus de manifestations. Fait que ce qu'ils nous montrent, ben, c'est des images, c'est des déclarations justement des ministres, etc. Ce qu'on voit, c'est que Écoute, j'ai rarement vu le gouvernement iranien autant en alerte. Là. Et puis je dis ça en toute sincérité. Là, on les a déjà vus être paniqués, on les a déjà vus agiter un peu les tambours de guerre. Mais là, manifestement, ils ont de l'information comme quoi il y a quelque chose qui s'en vient. Parce qu'on les a rarement vus prendre autant de postures, de gesticulations, de prévenir d'avance qu'il y aurait une réponse. Puis moi, je peux même te faire une prédiction, JC, de ce que je pense qui va arriver. On va probablement frapper l'Iran. Et l'Iran va utiliser le Hezbollah pour répondre sur Israël. Parce que l'Iran a des moyens très limités, mais le Hezbollah, déjà, là, dans les derniers jours, là, on a le chef du Hezbollah qui a dit « Vous savez quoi? S'il y a une frappe sur l'Iran, on va se mobiliser. » Et bon, Israël a fini avec Gaza, a fini avec le Hamas, ou à peu près. Il y a une belle fenêtre d'opportunité pour Netanyahou puis pour tout le monde de retourner au Liban. Puis dans les derniers mois, là, on a vraiment vu les Américains et les Israéliens perdent patience avec les Libanais d'une manière quasiment insultante. Là. Il y a quelques mois, ils disaient qu'ils ne devraient même pas avoir un pays, dans le fond. Là, que c'était un failed state, puis qu'ils devraient peut-être juste donner ça à Syrie. Puis ça, c'est les Américains qui disent ça ouvertement. Fait que j'ai l'impression qu'on va utiliser tout ça pour une petite séquence d'avancer les intérêts israéliens.
Tu as dit quelque chose qui a retenu mon attention. Tu as dit qu'il n'y en a plus de manifestations, mais moi, je repose la question autrement. Est-ce qu'il y a encore des manifestants? Parce que selon les chiffres, puis évidemment, là, c'est un peu embrumé parce que c'est très difficile d'avoir de l'info, mais si tu regardes là, les OMG et les organismes, tu as l'ONU, tu as l'Iran qui ont donné... Iran International, pardon, qui ont donné... qui n'est pas l'Iran, là, le gouvernement, qui ont donné des chiffres, et ça vacille entre 20 000... et 36 000 morts. Et là, je te parle pas des prisonniers qui vont peut-être être jugés et exécutés dans les prochains jours / prochaines semaines. C'est sûr que tu te dis, ouais, ben ils manifestent plus. Est-ce qu'il en reste des manifestants? Juste donner un ordre d'idée, là, Benjamin. Là, on a envoyé 40 000 militaires pendant toute l'opération en Afghanistan au Canada. Fait que s'il y a eu 36 000 morts, c'est énorme comme chiffre, là, parce qu'il y a eu 158 morts canadiens en Afghanistan, puis on en parle beaucoup avec raison. Mais ce chiffre-là, il est épeurant. Est-ce qu'ils ont, ils ont passé à gratte?
Bien, c'est une très bonne question à savoir est-ce qu'il reste encore un corps de mobilisation. Puis indépendamment de savoir si t'as tué tout le monde ou sorti tout le monde des rues, c'est aussi le facteur d'intimidation. Là. C'est que les autres qui ont vu ça aller ont plus vraiment envie de se mobiliser puis d'être publiquement affichés. Ils ont vu les moyens qui étaient prêts à prendre le régime. Une très bonne question. Il y a deux points qu'il faut prendre en compte. D'abord, on a un pays de 90 millions de personnes. Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi longtemps qu'il va y avoir un gouvernement, il va y avoir du monde pour l'opposer. Mais additionnellement à ça, il y a une dimension qu'on n'a pas assez explorée aussi. C'est la répartition géographique de ces morts-là. Ce qu'on a appris par après, c'était que la majorité des morts et même des manifestations avaient eu lieu, oui, dans la capitale, mais surtout dans le nord de l'Iran, dans des régions qui étaient majoritairement habitées par des Kurdes. Fait qu'on n'a pas affaire à des... Bon, tu sais, c'est pas uniquement des Iraniens qui se sont soulevés. Il y a aussi une dimension ethnique à ça. Puis les Kurdes, un peu comme partout dans le monde, là, un peu comme vous les voyez en Turquie, ont des revendications autonomistes. Même chose en Iran, même chose en Syrie, même chose en Irak. Les Kurdes, c'est toujours un peu quelque chose qu'il faut prendre avec des pincettes. Fait que je serais curieux aussi de savoir c'est quoi la dimension de tout ça là-dedans. En ce moment, on a vraiment beaucoup d'informations partielles. L'information qu'on reçoit, c'est bien sûr quelque chose qui nous est distribué au compte-goutte parce que ça fait l'affaire des gens qui nous la distribuent. Fait que même les chiffres des morts et des blessés, etc., je prends ça avec un gros grain de sel. Hier, on recevait de l'information comme quoi tu avais 2 millions de victimes militaires en Ukraine. C'est toujours exagéré considérablement.
Des deux bords, hein? c'est exagéré d'un bord, puis de l'autre bord, ils vont dire « Ah oh non, 2000 ». C'est comme
exactement. Les Iraniens nous disent oh, peut-être quelques centaines au départ qu'on nous mentionnait. Finalement, on reconnaît maintenant que c'est au moins plusieurs milliers. Mais d'avoir le chiffre total et final, ça va être très dur. On entend notamment là, qu'en ce moment, le gouvernement iranien se promène de famille en famille pour aller voir les gens qui ont perdu des enfants dans les manifestations et leur font signer des papiers comme quoi leur enfant, leur fils, leur fille faisaient partie du Basij, qui est la milice paramilitaire iranienne. Un peu pour essayer de les faire passer du camp des manifestants aux forces de sécurité. Puis là, t'es capable de dire, ben, gars, nous autres, on a perdu 800,
par exemple. Une mort plus noble, ouais, c'est ça.
Exact. Fait que là-dessus, c'est clair que les Iraniens vont essayer de cacher c'est quoi la vérité. On comprend, c'est une bataille de l'opinion publique. Et s'il y a à perdre, ben, ils se mangent un missile en pleine gueule. Fait qu'ils ont intérêt, certainement, là, à nous dire que c'était pas si pire.
Concernant les brouilleurs qui ont été utilisés par l'Iran puis qui sont toujours en fonction, est-ce qu'on a d'autres détails sur la technologie? Je suis conscient que ça vient de Russie, mais l'opacité qui se dégage de ça, pour moi, c'est du jamais vu. Est-ce que ça a, premièrement, déjà été utilisé en Ukraine? Et secondo, est-ce qu'on peut dire que l'Iran avait peut-être prémédité ou à tout le moins avait anticipé une révolution de la sorte? Parce que en déployer autant que ça en si peu de temps, fallait qu'il y ait la technologie sur le territoire d'une certaine façon.
C'est fort possible qu'il avait déjà sur le territoire. Puis on a entendu, là, c'est un bon lien que tu fais avec l'Ukraine, on a entendu parler justement des Ukrainiens en premier de cette technologie-là. Ouais. J'avais couvert en revue de presse, à peu près un mois et demi, les services de renseignement ukrainiens avaient levé le drapeau rouge en disant « Hey, attention, les Russes sont activement en train de déployer, de développer une arme contre Starlink pour essentiellement briser les liens de communication. » On se souvient, Starlink, c'est à peu près le pilier de la communication sur le front ukrainien pour les forces ukrainiennes. C'est vraiment un élément assez important de leur architecture sécuritaire. Fait qu'ensuite, si tu te déplaces en Iran, fort possible qu'une technologie qui a été déployée à succès en Ukraine aurait pu être déployée aussi en Iran, préalablement, fort probablement. Maintenant, c'est aussi très rapide d'envoyer un avion avec une centaine de brouilleurs à bord. Puis c'est une technologie qui, moi, m'invite à vous parler, là. C'est une autre affaire qu'on a su récemment. On se parlait la semaine passée puis la semaine d'avant du fameux raid au Venezuela contre Maduro.
Ouais.
Il y a une histoire là, qui avait été relayée d'abord par Caroline Leavitt, la porte-parole de la Maison-Blanche, qui avait relayé une espèce de témoignage un peu bizarre comme quoi un membre de la sécurité de Maduro, un Cubain qui défendait Maduro,
ouais,
se confiait à un intervieweur en disant « My God, les Américains sont tellement forts, sont tellement incroyables, sont si séduisants. » C'était un peu, ça sonnait comme de la propagande, mais il nous racontait quelque chose là-dedans, comme quoi les Américains étaient arrivés avec une arme très exotique, quelque chose, une arme sonique qui aurait fait saigner du nez puis vomir du sang à tout le monde, et que cette arme-là aurait aussi désactivé les systèmes, les armes, les fusées, les roquettes, etc.
Ah, ouais.
Et là, on prenait ça un peu en se disant « Ouais, bof, ça sonne comme de la propagande », jusqu'à ce qu'il y a 3 ou 4 jours, Trump, dans une entrevue avec le New York Post, fait un gros clin d'œil à tout le monde et confirme que les Américains ont utilisé ce qu'il appelle le discombobulator, qui est une arme désorientante qui aurait essentiellement fermé toutes les armes russes, les armes chinoises qui avaient été fournies préalablement. Et ça, ben, ça m'amène à vous parler, là, justement, quand on parle de Starlink, etc., c'est que cette déclaration-là, qui est un peu passée inaperçue, c'est en train de déclencher une vraie crise stratégique pour l'industrie militaire russe,
oui, hein,
et pour l'industrie militaire chinoise. Parce qu'eux autres, ils te vendent des machines en disant « on va te défendre contre tout le monde », puis les Américains arrivent, tournent une switch, puis ils ferment tout ton équipement.
Mais oui.
C'est un peu gênant. Fait que là, oui, les Chinois puis les Russes reçoivent des appels depuis quelques semaines à se poser des questions, à dire « qu'est-ce qui vient de se passer au Venezuela? Comment ça qu'il n'y a rien qui a tiré, qu'il n'y a rien qui a marché? Explique-moi ça. En quoi mes armes sont différentes? » Fait que les Américains, clairement, possède une technologie exotique qui ne semble pas trop être connue des autres et qui est en train d'embarrasser sérieusement la Chine puis la Russie.
C'est fou parce que, tu sais, rapidement, évidemment, tu racontes ça, puis on a tendance à tomber tout de suite dans, parce que là, on a une habitude maintenant, l'humanité, on est dans le complotisme. Ouais, franchement, ça se peut pas une affaire de même, mais tu sais, ces compagnies-là qui développent les armes du futur, ils vous en parleront pas, là. T'sais, le but, c'est d'arriver à quelque chose de surprenant, de dissuasif. Puis ça m'a rappelé, je sais pas si vous vous souvenez, l'épisode où il y a des... c'est des diplomates qui étaient, je pense que c'était à Cuba, et qui tombaient malades.
Syndrome d'Havane.
À tout bout de champ, ils tombaient malades, mal de tête, ça saignait du nez, ça vomissait. Ouais. Là, ils disaient, d'après moi, ils nous envoient des ondes où il y a quelque chose, tu sais, qui...
Ouais,
mais ça existe, ces choses-là, ces tests-là, c'est, tu sais...
Exactement.
L'évolution, c'est pas juste pour les iPhones, là. C'est dans l'armement.
C'est ce qui me décourage le plus quand je me mets à faire des recherches là-dedans un peu. Je me trouve tellement con puis tellement naïf à chaque fois que tu te dis une technologie exotique qu'on commence à entendre parler. Et là, tu découvres des brevets datent de 1979.
Tout existe.
Qui ont été en... C'est comme, non, c'est triste quand tu vois ça. Tu comprends qu'on nous montre pas tout.
Est-ce qu'on pourrait faire un lien avec la nouvelle technologie que tu viens de parler et ralentir peut-être?
C'est une très bonne question. C'est le genre de choses qui pourraient être développées par les acteurs privés aux États-Unis.
Qu'est-ce que Palantir peut-être a développé, là?
Oui, exactement, c'est ça. C'est un gros joueur du secteur privé américain qui a travaillé avec de l'argent de la CIA au départ. C'est la CIA qui a un peu fourni l'argent pour être capable de les amener à un niveau plus industriellement intéressant. Puis eux travaillent dans tout ce qui est technologie avec l'intelligence artificielle également pour être capable de, bon, autant créer des logiciels que créer des suites d'armement qui sont justement plus avancées technologiquement. C'est un genre de DARPA du secteur privé, si on veut, qui va accélérer puis livrer ces projets-là. Ça ne m'étonnerait pas. Maintenant, comme je te dis, on sait que cet équipement-là, les Américains en disposaient depuis très longtemps. Là. On a eu des histoires comme quoi les fameuses armes soniques, les armes à énergie dirigées, ça avait été déployé en Afghanistan en 2010. Ouais. Ouais, comme en 2010. Là. Puis ils l'ont sorti, ils l'ont jamais utilisé, ils l'ont ramené. Du moins, ça, c'est ce qu'ils nous ont dit. Okay. Puis on n'a jamais entendu parler après ça. À quelques occasions, on a déployé des technologies similaires, comme en Biélorussie, des trucs quand même, sur des manifestants. Où là, les gens, il y avait, écoute, des symptômes qui étaient intolérables, puis étaient obligés de quitter la manifestation, des brûlures, des bruits, des saignements du nez, des affaires comme ça. On a déjà vu, mais il n'y a comme pas personne qui nous l'a montré avec des photos, des vidéos, tu sais.
Mmh. Hey, my God, quelle discussion intéressante. Hey, merci, Benjamin, c'est toujours le fun et enrichissant. Merci d'être là.
Mon plaisir, messieurs.
Salut, bye. Benjamin Tremblay, que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube, 7 jours sur Terre, une chaîne très populaire avec des... je l'ai dit, ben, c'est quasiment des documentaires là, sur l'actualité géopolitique. Il y a aussi une deuxième chaîne maintenant qui s'appelle Chaque jour sur Terre. Donc, 7 jours sur Terre et Chaque jour sur Terre. À voir. On fait une pause, on revient.
Ouellet, bon. En direct.
Ah, de quoi?
Petite pause. On revient dans pas long.
Radio X.